LFL
95.5.
Bienvenue à tous ceux qui viendraient de se caler avec nous sur le 95.5 à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes tous les jours à 8h30 cette semaine dans le morning. Honneur aux ladies. On reçoit différentes femmes qui viendront nous parler de leur parcours. Aujourd'hui, on est avec Awa et Cécile. Comment vous allez les filles ?
Très bien, Mallory. Et toi ?
Impeccable, merci.
Bah, ça va très bien, moi aussi. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. On est dans une bonne ambiance. Vous ne trouvez pas ?
Si, je confirme.
Si, ouais, on est
matinale
bien.
Et chaleureux.
Exactement. Awa, du coup, toi, tu es née à Versailles, si je ne me trompe pas. J'ai fait une petite recherche.
Tout à fait.
On est bien jusque-là. Assistante oui. sociale de formation et mère de 3 enfants. Toujours ?
Toujours bien.
Toujours bon. Du coup, tu as écrit un ouvrage, un livre qui s'appelle « Tiroir à bonheur », qui est du coup une pièce de théâtre. Et pour ça qu'on est avec Cécile ce matin aussi, parce que tu es la metteuse en scène du coup de cette pièce de théâtre « Tiroir à bonheur » qui n'a pas encore vu le jour, hein, vraiment. C'est pour ça que chez vous, vous n'êtes peut-être pas au courant du coup de cette pièce. Mais ça arrive, j'ai cru comprendre, hein, les filles,
oui.
On est bon.
On est bon.
Ça ne va pas tarder.
Ça ne va pas tarder. Du coup, toi, Cécile, tu es comédienne et metteuse en scène. Tu as une compagnie, les Charroyeurs de Songe, que tu as créée en 2002. Tu avais quel âge quand tu as créé cette compagnie ? Dis-moi.
Alors là, attention, il faut que je fasse une soustraction parce que je me rappelle de l'année, mais pas de l'âge.
Pas de l'âge que tu avais.
Voilà, voilà, 2002, on est en 2021. Nous ajoutons donc 19. J'ai 46 ans. Ça nous amène donc à 27 ans. Ouh là là, que le temps passe.
Ça passe. Hein. Et c'était ta deuxième compagnie, c'est ça ?
Mais je raconte n'importe quoi, en fait. Parce que ça ne me fait pas du tout 27 ans. Ça fait déjà 19 ans. Ben non, mais j'avais pas réalisé. Oui, ça fait déjà 19 ans.
Et du coup, tu avais quel âge ?
Donc du coup, j'avais réellement 27 ans.
27 ans. Et c'était ta deuxième compagnie, c'est ça, si je ne me trompe pas ?
Alors en fait, c'était ma première compagnie en tant qu'outil professionnel.
D'accord.
Mais c'était ma deuxième compagnie théâtrale, la première ayant été une compagnie amateur, créée à 20 ans en sortant du bac,
okay.
Avec des copains d'ailleurs du lycée, et avec l'idée qu'il fallait absolument qu'on joue et qu'on puisse montrer nos créations.
Donc à 20 ans, ça fait tôt quand même, c'est... T'avais la fougue de la jeunesse, tu t'es dit je veux faire du théâtre, je vais créer ma compagnie et faire passer des messages peut-être, changer le monde.
Alors oui, effectivement, à 20 ans, je pensais que j'allais changer le monde, mais je voyais ça comme un objectif très très atteignable.
Ouais.
Donc ça a été le sens de cette première compagnie. Alors aujourd'hui, je me refuse de dire que j'aurais vu les objectifs à la baisse. Par contre, j'ai compris que ma part de la chose sera beaucoup plus infime que ce que j'aurais pu espérer. Et que, bah, ma foi, si j'arrive à déplacer un petit grain de sable sur le désert à traverser, ce sera déjà très beau.
Et c'est vrai, en plus, hein, ça sera déjà super de ta part. Toi, Awa, tu as créé une association Second Souffle qui a pour objectif de soutenir et d'accompagner les aidants familiaux.
Tout à fait, Mallory. Oui, en 2016, en fait, avec d'autres parents d'enfants en situation de handicap, on a créé cette association pour les objectifs que tu viens de citer.
Parce que du coup, tu es toi-même du coup parent d'un enfant en situation de handicap.
Oui, je suis la maman d'un enfant en situation de handicap qui a 12 ans maintenant, qui s'appelle Yanis, et qui est plus précisément en situation de polyhandicap.
Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs qui ne s'y connaîtraient peut-être pas en situation du coup de polyhandicap ?
En fait, c'est un bout de chou qui est assez grand maintenant.
Oui, c'est vrai.
Qui a bah, aussi bien des déficiences moteurs qu'une grosse déficience au niveau aussi mental, qui a du mal à manger, enfin qui ne peut pas manger seul, qui ne peut pas se déplacer, qui est complètement dépendant de nous dans tous les actes de la vie quotidienne et qui a besoin du coup d'une prise en charge, de plusieurs prises en charge quotidiennes pour pouvoir continuer ses apprentissages.
Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du rôle d'un aidant familial ?
Alors, un aidant familial, c'est vraiment une personne qui accompagne, là, comme je viens de le dire un petit peu pour mon loulou, un proche, que ça soit son enfant, son conjoint, un voisin parfois, dans plusieurs actes de la vie quotidienne, mais que ça peut être aussi bien au niveau des repas, qu'au niveau des aides administratives, qu'au niveau des accompagnements au niveau du médecin, par exemple. Et en fait, ça peut très vite prendre beaucoup de place dans la vie, dans le quotidien, en plus parfois d'une activité professionnelle. Je crois que dans les chiffres, il y a au moins la moitié des aidants qui sont en activité professionnelle. Un aidant sur deux a en plus son activité professionnelle. Et ce qui est très particulier, c'est que être aidant, c'est beaucoup de conséquences.
Oui.
Au niveau économique, sur parfois son couple, sur la fratrie, sur cette fameuse conciliation vie pro et vie perso, et sur sa santé également.
Tu l'expliques un petit peu ça dans Tiroir à bonheur ?
Tout à fait. L'idée de créer un livre, puis après de pouvoir le mettre en scène avec la Cécile, c'était vraiment de pouvoir parler de toutes ces thématiques. C'est un peu permettre à l'aidance de sortir un petit peu de l'ombre, parce que on est tous des aidants potentiels, hein, la vie est ainsi faite. Ouais. Et pouvoir en parler dès maintenant, pouvoir en parler via cet outil qui est la pièce de théâtre, permet peut-être d'aborder des questionnements, des problématiques, mais également des solutions avec un axe culturel.
Et tu me le disais un petit peu avant qu'on prenne l'antenne, qu'un aidant n'est pas toujours conscient en fait qu'il est aidant familial.
Comment ça se fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans notre société aussi, hein, où d'ailleurs c'est un terme qu'on utilisait par le passé, des dents naturelles, quelque chose qui fait que c'est naturel d'aider son proche finalement, c'est intrafamilial, c'est dans la famille et les choses se font comme ça, on aide ses parents, on aide ses enfants et il n'y a pas forcément de à l'époque de terme qui expliquait ça, c'était vraiment on le prenait à bras le corps parce qu'on aime son proche, parce qu'on veut faire le mieux pour lui, sauf que le fait de maintenant avoir un terme qui définit les aidants familiaux, on les appelle également des proches aidants, permet aussi d'avoir, si on se positionne comme ça, d'avoir des politiques publiques qui sont derrière. D'accord. Sinon, on est invisible en fait. Et à partir du moment où on reconnaît qu'il y a des aidants, forcément, on va peut-être pouvoir répondre à leurs besoins et mettre en place des choses comme le congé proche aidant maintenant qui est rémunéré, mais également comme des possibilités de répit ou d'aide financière particulière.
Pourquoi est-ce que tu l'as écrit cet ouvrage, Le Tiroir à bonheur, dis-moi ?
Je pense que d'abord, ça m'a fait du bien.
Extérioriser.
Voilà. C'est ça, d'extérioriser, de prendre du recul.
Aussi.
Mais également de m'interroger sur mon histoire personnelle et de la mettre en relation également avec ce qui m'entoure, avec mes proches, avec la fratrie d'Yanis, avec son papa, mais également avec comment moi, à un moment, en lien avec mon histoire personnelle, mon enfance, mon parcours, j'ai pu peut-être mettre un parcours en place pour pouvoir retrouver des solutions. Donc c'est vrai que le tiroir à bonheur et le titre, c'est un peu ça, c'est un petit peu cette métaphore d'un parcours parmi tant d'autres de résilience.
Avec l'association Second Souffle, vous avez entrepris de faire des ateliers de théâtre, c'est bien ça, qui permettait en fait aux aidants familiaux de prendre du temps pour eux. Explique-moi un petit peu comment ça s'est passé.
Oui,
parce que c'est important le théâtre, du coup, là on l'a compris, parce que tu es venue avec Cécile qui met en scène du coup le tiroir à bonheur. J'aimerais bien du coup comprendre pourquoi c'était si important pour toi de faire ce tiroir à bonheur sous forme de pièce.
En fait, c'est vrai que Second Souffle, donc depuis 2016, met en place différentes actions, différents ateliers. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on était plus sur des actions de répit, vraiment pour les aidants. On a mis en place de la sophrologie, des ateliers cuisine, par exemple. Et en 2018, on a tenté une petite expérience en mettant en place des ateliers théâtre forum.
Ouais.
Dans le cadre de 4 week-ends où on a, avec des aidants, et j'en faisais partie, mis en place des scénettes qu'on a présentées le 2 juin 2018, si mes souvenirs sont bons, au Scarabée, devant un public. Et en fait, on s'est rendu compte que déjà la mise en œuvre de ces ateliers et ce qui est ressorti, c'était très positif, aussi bien pour les aidants qui ont pu évoquer plein de choses, qu'on puisse aussi rire, qu'on puisse aussi mettre du lien dans ce qu'ils vivaient. Et le fait de présenter leurs difficultés devant un public, on s'est rendu compte, et moi la première, à quel point ça, c'était un outil vraiment de sensibilisation.
Ouais.
C'est là où, où le public a pu participer, a pu venir sur scène, changer certaines choses. C'est le principe un peu du théâtre forum. Et ça a fait écho. Ça a fait écho et là, je me suis dit, bah voilà, j'aimerais peut-être un jour pouvoir participer à un projet un peu plus collectif qui permettrait de sensibiliser et qui permettrait aussi de parler un peu de nos engagements, des difficultés autour des aidants à travers une pièce de théâtre, mais là, pour le coup, créée de A à Z.
Et c'est ce que vous avez fait.
Et c'est ce qu'on a fait, Mallory.
Comment vous êtes rencontrées toutes les deux, Cécile, dis-moi.
Tout à fait par hasard. Non, en fait, dans les différentes choses que je mets en place, je fais aussi des ateliers pour les enfants, les ados, les adultes, ouais, dans différents lieux et milieux. Et en fait, le troisième fils d'Awa a participé à un atelier théâtre que je menais. Donc, j'ai d'abord rencontré Awa en tant que maman.
Oui.
Et puis, le contact s'est fait assez facilement. Et donc, du coup, quand elle a eu son projet et qu'elle est venue vers moi en me disant « Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un ?» etc., etc. J'ai voulu lui demander quel était le projet pour l'orienter vers la personne la plus pertinente. Ouais. Et en fait, quand elle m'a parlé de son projet, j'ai eu envie d'en parler à personne. J'ai surtout eu envie que...
de le garder pour toi.
C'est ça. C'est ça. Je suis tombée tout de suite amoureuse.
Ouais. De l'ouvrage, du coup.
Alors en fait, elle m'a parlé du projet, déjà les thèmes qu'elle souhaitait y aborder.
D'accord, donc même pas, tu n'avais pas encore l'écrit devant toi.
Non, en fait, les thèmes et puis la démarche de se dire que par le théâtre, on peut faire des avancées, ouais, partager. Et du
ah
coup,
bah c'est ce qui te ressemble, toi.
Voilà, donc la démarche me plaisait énormément. Je lui ai dit, bah, écoute, il faudrait que je lise. Donc moi, je ne voulais pas lui dire oui avant d'avoir lu. Je lui ai dit, écoute, oui, ça m'intéresse, il faut que je lise. Et une fois que j'ai lu, ben, je suis tombée immédiatement amoureuse de l'histoire.
Bah, amoureuse, de son histoire, du coup.
Oui, puis amoureuse de tous les gens dont elle parle, où c'est tellement de beaux humains. Et puis après, il y a eu cette deuxième phase de me dire qu'au-delà du premier élan d'amour... c'était au-delà d'une histoire singulière, qu'il y a plein de choses en fait, qu'elle racontait qui pouvaient concerner tellement de monde, qui avait finalement une portée, je vais oser le gros mot, universelle dans son récit.
On va en parler un petit peu plus de ce tiroir à bonheur, les filles. Bah surtout de quand est-ce que ça va être joué, enfin, parce que je pense que vous êtes impatientes. Mais juste avant, on fait une petite pause avec Jack Wiz et Moulatov. Vous restez bien avec nous et on revient juste après ce nouveau single sur le 95.5.
Le gros son de la plus féminine des radios sur le 95.5 LFM.
Queen. Yeah. Tell me, are you freaky as me?
Freaky as me.
Girl, I wanna know how far we could go. Tell me if you freaky as me.
Freaky as me.
Girl, I wanna know why. I wanna know. Are you freaky as me? When I spank on that booty, don't run. No talking, see the cat got my tongue. Licking on your legs, licking on your toes. Anything goes, just let me know.
Freaky as me,
girl, I wanna know
LFL
95.5.
Vous êtes toujours bien calé sur le 95.5 à l'instant. C'était Freaky As Me de Jack Wiz avec Mulatto. Une grosse dinguerie qui est sortie la semaine dernière. On est de retour avec Awa et Cécile ce matin. C'est nos invités du jour et on est sur une semaine spéciale Ladies, je le rappelle, puisque c'est la semaine du coup, qui est marquée par la Journée internationale des droits des femmes. Donc on fait quelques portraits avec quelques femmes qu'on va recevoir jusqu'à vendredi. Est-ce que ça va toujours de votre côté, les filles?
Ça va, Mallory.
Toujours très bien.
Toujours, on est bien.
Ouais. Bien.
J'aimerais bien que vous me parliez un petit peu du commencement, en fait, de ce tiroir à bonheur quand vous avez commencé à travailler toutes les deux. En fait, comment ça s'est passé un petit peu? Dites-moi. Parce qu'il a fallu réécrire, du coup, pour transformer ça en pièce.
Alors, je ne vais pas cacher que ça s'est passé dans une... Pour moi, pour ma part, dans une... Un début extrêmement frustrant, puisqu'au départ, on avait un peu prévu dans cette réécriture aussi de travailler ensemble, en se voyant, de travailler aussi au plateau, donc avec des improvisations de comédiens, ça avait été envisagé comme ça.
D'accord.
Et puis en fait, on a commencé à travailler sur la réécriture
En mars, au début du confinement.
Voilà, c'est ça.
Vous êtes bien tombés, les filles. Hein. Extrêmement bien tombé sur le coup là.
Tout à fait, donc c'est vrai que ça a demandé du coup à se réajuster.
Oui, j'imagine.
Et on a entrepris finalement de bosser via Zoom, je crois. Enfin, via
Zoom, Skype, par une plateforme.
Par des plateformes.
Voilà, c'est ça. Donc, l'écriture au plateau s'est transformée en écriture à la maison par ordinateur.
Ah oui, pas de plateau là pour le coup.
Non.
Ah
non.
Pas moyen de...
Non.
Pas du tout.
Et on a écrit à six mains, en fait.
D'accord.
On a écrit avec une des comédiennes également. Et l'idée, en fait, ça a été par étapes de dégager finalement les thématiques, les chapitres, les éléments qu'on voulait voir apparaître dans cette pièce. Donc, du coup, il y a eu un vrai boulot déjà de résumé, on va dire, d'éléments importants qu'on voulait y voir. Et puis après, on a fonctionné par acte.
Alors, ce que... Awa ne dit pas, petite coquine, c'est que son texte, le manuscrit, il fait 300 pages.
Et qu'on n'avait pas... gardé de le dire, ça.
On n'avait pas du tout... On ne les voit pas passer quand on les lit. Mais par contre, on s'est dit que 3 heures, le spectacle,
ah oui,
ça risquait d'être un peu long, qu'on risquait de les voir un petit peu passer.
Mmh.
Donc, elle parlait de la méthodologie. On a effectivement été obligé de faire des choix sur ce qui nous semblait le plus important...
Ouais.
De partager. Donc, ça a déjà été un travail un petit peu long.
Bah surtout que toi, tu n'aurais pas pu le faire toute seule, Awa, parce que vu que c'est ton histoire, ça aurait été très dur, en fait, de supprimer des choses. Tu n'aurais peut-être pas eu le...
Alors, au début, c'est ce que je me disais, Mallory, mais
ouais.
Au final, parce qu'après, oui, il faut imaginer qu'il y a des comédiennes qui vont apprendre le texte, que ça doit être aussi digeste, entre guillemets,
oui.
Et qu'il y a des parties qui pouvaient être vraiment... et c'est là tout le boulot aussi super que l'équipe a fait, là, en tout cas que Cécile et Christine ont fait, vraiment d'avoir des visions de vidéos, des vidéos de danse, de choses comme ça qui font que rien qu'en pensant ça, ça réduit aussi certaines parties, quoi.
Bah c'est là aussi que la deuxième comédienne qui est danseuse, Adama, a été extrêmement précieuse parce que dans le texte d'Awa, il y a aussi beaucoup de partage d'émotions, de sensations qui finalement, une fois sur scène, ne nécessitent pas forcément d'être verbalisées et qui peuvent passer par d'autres moyens comme la danse. Donc ça a aidé énormément aussi à la réduction du temps, on va dire.
On vient de parler de deux comédiennes. Donc du coup, c'est Christine et Adama, c'est ça?
C'est ça.
Elles sont deux sur le plateau.
C'est ça. Donc
pourquoi ce choix d'avoir... Déjà, quels sont leurs rôles? Voilà, dites-moi déjà, je trouve que c'est important.
Je pense que je vais laisser plus Cécile expliquer. Je vais juste rappeler leurs noms, donc Christine et Ouzan et Adama Nyang.
Donc, finalement, quand on a commencé l'écriture, on ne savait pas si on allait mettre tous les personnages qui apparaissent dans le livre ou pas. Et puis, on s'est acheminé sur l'idée que c'était, malgré tout, le récit d'une personne, le récit d'Awa. Et on a eu envie, petit à petit, finalement, que Awa soit jouée par deux comédiennes, qui sont donc Christine et Adama, qui au départ sont plutôt comédiennes et danseuses, et puis finalement ça se lit et elles dansent et elles jouent toutes les deux.
Ouais.
Et l'idée est que il y a Awa et son double. Et son double, c'est ce tiroir à bonheur, c'est cette pulsion de vie. Donc ça fait partie intégrante d'elle. Et en même temps, c'était pour nous bien de pouvoir le matérialiser comme par deux personnes. Moi et ma force de vie, ma pulsion de vie.
C'est ce que tu as vraiment essayé de passer, ça, dans ton ouvrage, Awa.
Après, c'est vrai que dans le récit, c'était vraiment... alors, même s'il y a des sujets assez difficiles qui y sont abordés, hein, et ouais, qui sont aussi abordés dans la pièce, hein, je peux revenir un petit peu sur... on parle de l'annonce quand même du handicap, on parle, oui, des différents deuils qu'on peut faire, hein, pendant tout ce processus, de l'impact du handicap sur la fratrie, sur le reste de la famille, hein, les grands-parents, par exemple.
Même on parle, sur son couple.
Sur son couple, des paroles aussi des autres, du regard des autres, qui peuvent être parfois vécues comme culpabilisées, ou au contraire donner un petit peu d'énergie et de regain, et de ce nouvel équilibre qu'il faut trouver aussi bien familial, professionnel que social. Donc c'est vrai que tout au long du récit, j'ai essayé quand même d'y mettre un peu d'humour, d'y mettre du rythme, d'y mettre pas mal de choses qui fait que je pense que ça a permis quand même à ce tiroir à bonheur d'avoir une place aussi dans la pièce de théâtre. Donc c'est vrai que les premières idées, les premiers échanges qu'il y a eu en se disant on fait deux personnages, très vite ça matchait en fait.
Ouais.
C'était limpide et ça donnait vraiment une couleur, une teinte particulière à cette pièce.
Toutes les deux, votre but, c'est de sensibiliser avec cette pièce.
Tout à fait.
Alors je vais revenir moi du coup un tout petit peu sur le moment où j'ai découvert le texte d'Awa. Il y a une chose qui m'a énormément frappée, c'est comme elle vient de le dire, il y a question de choses qui sont difficiles, l'annonce, la dépendance, de comment on s'organise. Et malgré tout, quand j'ai refermé le livre, il y a un truc qui m'a frappée, c'est que je me suis dit, mais toute la vie, c'est un cadeau, la vie est merveilleuse. Et moi, c'est la chose pour moi qui était très très importante aussi de pouvoir transporter avec cette pièce, c'est de se dire, mais l'humain est une machine fantastique. Il a en lui des ressources qu'on ne peut pas imaginer et il peut faire face à 3 milliards de choses et faire que la vie soit belle. Et c'est aussi ça qu'on a envie de véhiculer parce que c'est pas, enfin, moi en tout cas, qui est important, parce que c'est pas nécessairement l'image qu'on a des gens en situation de handicap.
Ouais.
Mais non, voilà, on a les ressources et la vie est belle.
Les aidants familiaux, on n'y pense pas toujours en fait. Moi je sais que pour l'instant, en tout cas parce que comme on l'a dit, on peut le devenir à tout moment, je ne suis pas aidant familial. Et par exemple, je suis sûre qu'en regardant, en fait, en assistant du coup à ce tiroir à bonheur, je serais totalement choquée en fait de la vie d'un aidant familial, de tout ce que ça procure, de tout ce dont du coup à quoi on fait face. Il y aura un débat après cette pièce, si je me trompe pas.
Oui, tout à fait, Mallory. En fait, c'est vrai que je vais revenir un petit peu sur le récit, un petit peu aussi sur comment la pièce va un peu se dérouler,
ouais,
sans trop spoiler. en fait, l'idée quand même, c'est de se dire qu'avant d'être un parent d'un enfant en situation de handicap ou d'être un aidant familial au sens large, on a une histoire avant. On a une histoire avant et puis on a plein de choses qui se mettent en place au fur et à mesure de la vie. Et c'est vrai que c'était important pour nous, que ça soit dans le récit ou que ça soit dans la pièce de théâtre, de retracer un petit peu tout ça. De quel genre de femme ou d'homme on est, quel genre de couple on est, qu'est-ce qu'on avait comme loisir, voilà, plein de choses. Ok, le handicap arrive, mais le handicap, finalement, il peut être aussi symbolisé par plein de choses qui nous arrivent dans la vie.
Ouais.
La perte d'un emploi, le coronavirus, il y a plein de choses qui nous arrivent qui font qu'on va pouvoir peut-être trouver en soi de l'aide extérieure, un cheminement intérieur, des choses qu'on avait mis en place aussi avant pour nous aider à continuer le parcours. Et c'est vrai que dans cette pièce, moi je pense qu'on peut s'y reconnaître, même si finalement on n'est pas forcément parent d'un enfant en situation de handicap, parce qu'il y a plein de sujets sur l'interculturalité par exemple, sur des questionnements qu'on peut avoir, qui peuvent peut-être aussi parler à d'autres personnes. Voilà, je ne sais plus si j'ai répondu à la question.
Non, mais j'ai envie de rebondir. On parle de recalage. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes, les recalages avec un enfant en situation de handicap, mais moi, j'ai trois enfants, ils ne sont pas en situation de polyhandicap, et les trois arrivés, ça a été la tempête. Il faut se recaler, surtout que les deux et trois sont arrivés à deux. C'était pas prévu comme ça. Et voilà, et c'est pour ça que cette histoire de ressources humaines, finalement, elle va au-delà du discours sur le handicap. Ouais. C'est les ressources humaines, c'est ce qui fait qu'on avance dans la vie avec tout ce qui arrive et qui est inattendu.
Tout à fait. Et c'est vrai que la journée de la femme, voilà, on est vraiment dans cette thématique-là aussi. Ouais. Et c'est vrai que ça pose aussi pas mal d'interrogations, mais aussi de choses très positives aussi, qui est, voilà, quand on est une femme aussi et qu'arrive un enfant en situation de handicap, c'est dans beaucoup de cas la femme qui va s'arrêter de travailler.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est comment aussi on peut rester femme, on peut rester mère, on peut avoir une vie professionnelle, où on peut en tout cas avoir le choix, même si c'est pas la vie professionnelle qui nous attend, il y a d'autres choses qui construisent notre quotidien. Et c'est aussi toutes ces questions qui sont un petit peu mises en interrogation dans ce récit. Ouais. Et oui, du coup, l'idée, c'était pas de faire une pièce et on se quitte.
Et on s'en va.
C'était vraiment de pouvoir échanger, parler, réinventer, questionner, être en colère, se fâcher. Et c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment à chaque représentation d'y associer un débat. Là, pour la pièce, quand elle sera jouée, on va pouvoir avoir à nos côtés Élodie Racial-Lefebvre, qui est psychologue, par exemple, au centre hospitalier Théophile Roussel à Montesson, qui, elle, est amenée à rencontrer des parents d'enfants en situation de handicap, qui va pouvoir apporter son expérience, mais également pouvoir faire le lien avec le public, ce qui va se passer après cette représentation.
Pour l'instant, le monde du spectacle, il est très impacté par la Covid. Donc, vous ne pouvez pas encore jouer cette pièce. Mais il y a quand même une représentation qui va être donnée le 26 mars. Est-ce que vous pouvez m'en parler avant qu'on se quitte, les filles ?
Alors, nous, en fait, on avait tellement espéré jouer le 28 mars pour le public. Bon, voilà, effectivement, j'ai même pas envie de développer là-dessus tellement on vit une énorme tragédie dans le milieu du spectacle. Mais bon, voilà, on a le droit malgré tout encore d'inviter des professionnels qui, eux, pourront avoir envie de programmer et grâce auxquels on pourra enfin rencontrer le public à qui c'est destiné. Donc, le vendredi 26 mars, nous invitons des professionnels à venir voir le tiroir à bonheur à la ferme du Bel et Bas à Guyancourt. Et déjà, ça va permettre aussi, enfin, de jouer devant du public, ce qui est important, même si ce n'est pas le public qu'on souhaitait. Ça va permettre à la comédienne, enfin aux deux comédiennes danseuses, de voir un petit peu le bout et l'aboutissement. Et on espère surtout qu'il s'en suivra une assez longue tournée et qu'on pourra partager avec un très très grand nombre de personnes tous ces questionnements.
Tout à fait. Et puis, je voulais rajouter aussi que, en fait, cette pièce de théâtre s'inscrit également dans un projet qui s'appelle le Trajectoire, accompagner les parents d'enfants en situation de handicap dans leur parcours, qui est porté par l'association Second Souffle.
Ouais.
Et que du coup, quand on a créé cette pièce, il a fallu aussi trouver des financements, tout ça. Donc, nos partenaires, en fait, sur ce projet sont la Caisse d'allocation familiale des Yvelines, la MSA, le Réapi, le Conseil départemental des Yvelines et le Fonds du développement de la vie associative. Et là, pour cette première, la ville de Guyancourt, avec la ferme du Bel et Bas, et l'école des parents également de la ville qui s'est associée vraiment avec beaucoup d'énergie dans ce projet. Donc voilà, j'en profite pour remercier tout le monde.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, les filles, pour cette année, pour la pièce et pour vous en général ?
Bah écoutez, comme dit Cécile, on espère que cette pièce ait vraiment un écho auprès du grand public, auprès du public, qu'on puisse continuer, nous, à prendre du plaisir comme on l'a fait quand on a créé ce projet. Donc voilà, pour cette pièce. Et puis après, on espère que de meilleurs jours arrivent. Et en tout cas, qu'on arrive, pour ma part, à rebondir malgré le contexte qui est parfois compliqué.
Moi, j'ai envie de souhaiter surtout beaucoup de liberté et beaucoup d'échanges humains.
Mais en tout cas, merci les filles d'avoir été avec nous ce matin pour parler du tiroir à bonheur. On espère en tout cas que ça va bien déjà réussir à se jouer. Oui. Ça serait déjà une bonne base. Et vous nous tenez au courant, en tout cas, chez LFM, hein, dès que vous aurez une date qu'on pourra enfin reprendre un petit peu les activités, surtout pour le monde du spectacle. Hein. Toi, Cécile, tu le sais, c'est pas du tout facile, en tout cas, pour plein de monde. Mais il faut pas non plus oublier le monde du spectacle de... Bah, on n'en parle pas vraiment, pas assez en tout cas, je trouve. Et on se fera un plaisir en tout cas de relayer l'info. En tout cas, moi, dans le morning, je me ferai un plaisir de relayer l'info dès que ça sera joué. Et on vous souhaite que du positif pour cette année. Et surtout, passez une bonne journée.
Hein. Merci, Mallory. Merci pour l'invitation.
Merci. Allez, salut les filles.
À bientôt.
Au revoir.
À 9h, on se fera une bonne exclue, hein, spéciale LFM. Mais la suite du son, c'est tout de suite avec Hiro et Koba qui fait cette belle nouveauté sur nos ondes. LFM 80.